Salut les curieux et les curieuses, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Les Oreilles au Ciel, dans laquelle je vais vous parler de ciels étoilés, de galaxies lointaines, de planètes incroyables, d'explorations spatiales, de découvertes scientifiques récentes et d'observations nocturnes. Quelques conseils donc pour ne rien rater des observations célestes du mois, ce mois d'avril 2018, c'est à la fin de l'émission que ça se passe, dans la rubrique « Le ciel du mois ». Mais avant, je vous emmène sur une lune de Saturne qui pourrait bien abriter la vie. On parlera aussi de Oumuamua, le premier caillou jamais observé, venant d'ailleurs que du système solaire, et de Victor Busseau, astronome amateur qui a pu observer une explosion d'étoiles lointaines avant même les plus grands télescopes du monde. C'est parti pour cette première de Les Oreilles au Ciel, et on commence tout de suite avec les découvertes astronomiques du mois. Notre système solaire comporte 8 planètes reconnues comme telles, dont Saturne, connu pour ses gigantesques anneaux vus pour la première fois par le premier à utiliser une lunette astronomique, j'ai nommé Galilée en 1610. En plus de ces anneaux bien connus, Saturne héberge un nombre important de lunes. Bon, jusqu'il y a quelques années, les lunes de Saturne, comme les autres lunes des autres planètes, ne nous intéressaient pas vraiment. Il faut dire que notre lune à nous est particulièrement hostile, froide, sans atmosphère, figée. Alors les chercheurs ont vite considéré que les petits objets du système solaire, qu'on prenait bien plus petits que la Terre, n'étaient pas dignes d'intérêt. Car plus un corps est petit dans l'univers, et moins il est susceptible d'être réchauffé par sa propre masse. Pas de chaleur, pas de géologie, pas de noyau en fusion, pas d'atmosphère, bref, pas très intéressant. Mais depuis quelques années, l'exploration spatiale découvre des planètes ou des lunes active au sein même de notre système solaire. Certaines de ces lunes sont chaudes et ont une véritable activité sismique, géologique. Elles renouvellent leur surface, elles comportent des montagnes, des volcans. Et même Titan, un des satellites de Saturne, est entouré d'une atmosphère dense. Il fait d'ailleurs partie des trois seuls corps du système solaire dans ce cas avec la Terre et Vénus. En 1997, la sonde Cassini est partie explorer le système de Saturne et de ses lunes. Après des années et des milliards de kilomètres parcourus, elle arrive aux environs de Saturne en 2005 et commence à explorer ses lunes. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle s'approche véritablement d'Encelade, dont on ne connaissait que très peu de choses auparavant. Les images de quelques pixels prises par des télescopes terrestres avant 80 nous révélait absolument rien, mais les survols rapides par les sondes Voyager 1 et 2 en 1981 changèrent la donne. Encelade aurait une surface assez récente, ce qui implique qu'elle soit géologiquement active. En 2008, la sonde Cassini prit des photos, des mesures, engrangea tout un tas de données, et on se rendit vite compte que la petite lune était en effet très active géologiquement. Des photos prises par Cassini depuis la face cachée d'Encelade ont même révélé que d'immenses geysers de vapeur d'eau salée s'échappent du pôle sud de la Lune, et ce, depuis des millions d'années. Des geysers d'eau salée, de méthane, de poussière, d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Les données collectées par la sonde, durant les années qui ont suivi, ont servi aux théoriciens à prédire la constitution de la Lune de Saturne. Aujourd'hui, nous savons qu'Encelade est couverte d'une banquise de glace d'eau de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, recouverte elle-même de neige fraîche. En 2015, après l'analyse de nouveaux résultats, la NASA révèle qu'un océan liquide, probablement d'eau salée, supporte cette banquise sur la totalité de la surface de la Lune, maintenu en température par l'activité du noyau d'Encelade. Le noyau de la petite lune chaufferait donc l'eau de cet océan global, qui percerait ensuite la croûte de glace en surface pour laisser s'échapper des geysers d'eau de plusieurs centaines de kilomètres de haut dans l'espace. Vapeur d'eau qui retombe sur la banquise sous forme de neige et recouvre une grande partie de la surface d'Encelade. Depuis ces révélations, d'autres équipes de chercheurs en biologie ont réalisé des tests sur des organismes vivants au fond de nos océans à nous, terriens, les archées. Longtemps considérés comme des bactéries, les archées sont des organismes vivants composés d'une seule cellule que l'on retrouve aussi bien dans l'intestin des vaches qu'au fond de l'océan Pacifique. Omniprésentes sur la planète Terre, les archées représenteraient jusqu'à 20% de la masse totale des êtres vivants sur la planète. Certaines d'entre elles sont méthanogènes, ce qui veut dire qu'elles se nourrissent de dioxyde de carbone et d'hydrogène et qu'elles rejettent du méthane. Et du méthane, on en retrouve parfois dans les pets des vaches, d'autres fois dans les geysers d'Encelade, geysers qui comportent aussi les éléments dont se nourrissent les archées méthanogènes, du CO2 et de l'hydrogène. Début mars 2018, une étude de chercheurs autrichiens a mis en évidence qu'une espèce d'archée terrestre pourrait survivre et même se développer dans les conditions théoriques présentes au fond de l'océan global d'Encelade. Et le méthane retrouvé dans ces geysers pourrait bien en être la marque. Sommes-nous à l'orée de la première découverte d'une vie extraterrestre? Rassurez-vous, le méthane retrouvé ne prouve rien. Il pourrait très bien provenir de tout autre chose que de microbes verts. Mais bon, ça fait toujours rêver. Notre soleil est une étoile comme une autre, comme toutes celles que nous pouvons observer la nuit sur la voûte céleste. Bon, pas comme toutes les autres quand même. Le soleil est classé comme une naine jaune, ce qui veut dire qu'il est une étoile plutôt petite et moyennement chaude pour faire rapide. Comme toutes les étoiles, notre soleil est né, et comme toutes les étoiles, il mourra. Sa naissance est datée d'environ 4,5 milliards d'années. Et d'ici environ 5 milliards d'années, il va se mettre à gonfler et briller de plus en plus fort, avant de s'effondrer et de s'éteindre complètement. D'autres étoiles plus grosses que le Soleil ont un destin plus spectaculaire. À la fin de leur vie, des réactions nucléaires complexes les transforment en véritables bombes de l'espace, les supernovas. Il faut bien s'imaginer que les supernovas ne sont pas si fréquentes. L'étoile qui explose met des milliards d'années pour réunir les conditions propices à cette explosion, et après tant d'attentes, on peut considérer que l'explosion se passe en quelques jours, quelques semaines tout au plus. Depuis l'invention du télescope, aucune supernova n'a jamais été observée dans notre galaxie. Et ce n'est pas parce qu'on les aurait loupées, on ne loupe pas une supernova dans sa propre galaxie. C'est parce qu'aucune supernova n'a eu lieu dans la Voie lactée ces 400 dernières années. Une supernova, c'est une explosion gigantesque, lors de laquelle l'étoile en question peut briller autant, si ce n'est plus, qu'une galaxie entière, c'est-à-dire briller plus que des centaines de millions de soleils à la fois. Vous imaginez bien qu'une telle explosion ne passe pas inaperçue. Par le passé, des supernovas ont été observées, parfois visibles à l'œil nu, parfois même en plein jour, et considérées comme des étoiles éphémères naissantes. Vous imaginez donc facilement qu'un événement aussi rare et aussi spectaculaire est traqué par bon nombre de télescopes à travers le monde. Et le comble des supernovas, c'est qu'elles sont complètement imprévisibles. C'est un peu comme une éruption volcanique. Avant l'éruption, des signes nous montrent que ça va bientôt exploser, mais l'explosion peut arriver aussi bien dans la minute comme 10 ans plus tard. Alors, les chercheurs observent des galaxies lointaines en espérant qu'une des milliards d'étoiles qu'elles contiennent explose soudainement. Victor Bousseau est un astronome amateur argentin. Il possède un télescope de 40 cm de diamètre, de quoi faire de fort belles observations. En septembre 2016, Victor Bousseau reçoit une nouvelle caméra à adapter sur son télescope. Impatient de la tester, il pointe son appareil sur la première galaxie qui lui vient à l'esprit, nommée NGC 613, dans la constellation du Sculpteur. Oui, la constellation du Sculpteur existe, elle est dans l'hémisphère sud, donc aucune chance que vous puissiez la voir depuis Saint-Afrique. Au bout de quelques minutes d'observation et de réglage, Victor Bousseau vit alors un point lumineux se former et gagner en puissance de minute en minute. Il vient d'observer et de filmer l'apparition d'une supernova inexistante quelques minutes auparavant. Une première dans l'histoire de l'observation astronomique. De tous les télescopes sur Terre depuis son invention par Galilée, aucun d'entre eux n'avait pu filmer l'instant de l'explosion d'une supernova. Très rapidement, Victor Bousseau a su prévenir les instances d'observation internationales et des télescopes de grande ampleur ont pu à leur tour se tourner vers la supernova à peine une heure après son apparition. Depuis, grâce aux observations effectuées et aux images de l'astronome amateur, une des théories scientifiques décrivant le phénomène des supernovas a pu être validée par la communauté scientifique. Comme quoi, même sans télescope gigantesque au sommet de la cordillère des Andes ou dans l'espace, les astronomes amateurs ont encore une belle place au sein de la communauté scientifique internationale. Revenons à présent au sein du système solaire, un peu plus proche de nous. Le système solaire est donc composé d'une étoile, le Soleil, de 8 planètes dont la Terre, de leur lune, de planètes naines, une petite dizaine, et d'innombrables morceaux de cailloux allant du grain de sable à la montagne ambulante de plusieurs centaines de kilomètres. Ces roches sont classées en deux catégories principales, d'un côté les astéroïdes et de l'autre les comètes. Les comètes sont principalement constituées de glaces d'eau et décrivent des trajectoires généralement larges et imprécises autour du Soleil, alors que les astéroïdes sont principalement rocheux ou métalliques et sont répartis dans des zones mieux définies du système solaire. Depuis la découverte du premier astéroïde en 1801, des centaines de milliers d'autres ont été répertoriés et ils tournent tous autour du Soleil. Lorsqu'un d'eux passe à proximité d'une planète, celle-ci peut le dévier de sa trajectoire ou même l'attirer jusqu'à elle. Et quand de petits astéroïdes tombent sur Terre, ils rencontrent l'atmosphère à des vitesses vertigineuses, plusieurs dizaines de fois la vitesse d'une balle de fusil. Le petit caillou, en entrant dans l'atmosphère, brûle alors complètement et les terriens y voient une étoile filante. On en reparlera dans les observations du mois d'avril dans quelques minutes. En février 2018, un astéroïde inconnu, qui avait d'abord été pris pour une comète, a attiré l'attention de tous les scientifiques de la planète. Sa trajectoire semblait montrer qu'il venait de l'extérieur de notre système solaire. Il a fallu plusieurs jours de mesures pour pouvoir l'affirmer et le baptiser Oumuamua. Les télescopes du monde entier avaient devant eux le premier corps connu provenant d'un autre système planétaire, peut-être similaire au nôtre, peut-être complètement différent, mais qui comporte au moins des astéroïdes et probablement même des planètes qui ont déstabilisé sa trajectoire et l'ont envoyé vers notre système solaire. Impossible de savoir d'où vient précisément ce caillou, mais une chose est sûre, il a traversé notre système solaire à une vitesse vertigineuse et est reparti directement à travers l'espace, en direction d'une autre étoile encore, qu'il atteindra probablement dans plusieurs millions d'années. C'est un peu comme si, en 1490, on avait reçu une bouteille à la mer provenant des Amériques. On pouvait se douter que ça arriverait, mais le fait d'observer ce rocher venu des confins de notre galaxie est une première à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de l'humanité. Et on peut espérer que ça se reproduise à l'avenir. Nous sommes donc début avril en ce sud Aveyron et le printemps approchant, les nuits vont être de plus en plus souvent dégagées, on l'espère. Qu'aurons-nous à observer dans ces prochains jours et tous pendant tout ce mois d'avril dans le ciel nocturne ? Eh bien, notez peut-être tout d'abord pour commencer que le 7 avril, la Lune, Saturne et Mars seront alignés au matin, il va falloir être un petit peu lève-tôt pour pouvoir l'observer. Avant 7h du matin, vous pourrez voir la Lune, donc Saturne et Mars, très brillante Saturne et Mars, juste à côté de la Lune, vous ne pourrez pas les louper, qui seront à la fois proches et alignés. Donc ça, ce sera le 7 avril avant 7h du matin, la Lune, vous ne pourrez pas la louper à ce moment-là quand même. Et donc si vous voyez deux gros points brillants juste à côté alignés, et ben vous saurez qu'il s'agit des planètes Saturne et Mars. Mars, on pourrait dire que c'est notre plus proche voisine, mais ce serait faux puisque il s'agit de Vénus, la planète rouge bien connue, et Saturne dont on a parlé pendant cette émission. Régalez-vous, si vous avez des jumelles, ça peut valoir le coup de zoomer un petit peu votre vue, si vous avez un télescope ou une lunette. À ce moment-là, vous verrez des choses un peu plus intéressantes peut-être. En tout cas, vous pourrez observer les anneaux de Saturne. Avec les jumelles, ça reste quand même très compliqué. Voilà, donc ça c'est le 7 avril avant 7h du matin. Et puis, on n'oublie pas aussi que les Lyrides, donc nom donné à une pluie, entre guillemets, qu'il ne faut pas trop espérer voir des pluies non plus, mais une pluie de météores, donc d'étoiles filantes, auront lieu au mois d'avril. Il y en a régulièrement dans l'année. Celle du mois d'avril n'est pas à marquer non plus sur son calendrier, mais ça peut valoir le coup de sortir les yeux de sa maison et de les mettre dans le ciel avec les oreilles. Donc les Lyrides, pourquoi elles s'appellent ainsi ? Eh bien, c'est le nom de la constellation sur laquelle est centré cet essaim de météorites, la Lyre. Et donc, c'est toutes ces poussières et ces petits graviers qui vont se précipiter dans notre atmosphère aux alentours du 22 avril ne sont pas là par hasard, ils sont le résultat d'une comète qui est passée par là en 1861. Elle a croisé la trajectoire de la Terre et depuis 1861, la Terre passe tous les ans dans les restes de cette comète qui s'appelait la comète Thatcher, rien à voir avec Margaret puisque c'était en 1861. Donc c'est pour observer des étoiles filantes en avril, essayer de sortir aux alentours du 22, c'est le jour où il y aura le maximum d'étoiles filantes probablement dans le ciel, mais du 16 au 25 déjà vous devriez pouvoir en observer. Puis si vous voulez voir autre chose que des phénomènes naturels, vous pouvez observer des phénomènes affilié à l'être humain, puisque la Station Spatiale Internationale, l'ISS, pourra être visible en ce mois d'avril. Elle l'est pas tout le temps, ça dépend des périodes. En tout cas, notez que le 6 avril, ce 6 avril-là, donc d'ici quelques jours, hein, ça tombe vendredi, aux alentours de 22h17, 22h18, vous pourrez voir très nettement la Station Spatiale Internationale sortir de l'horizon plein ouest et se diriger vers la Grande Ourse qui sera quasiment au-dessus de votre tête, au zénith. Sauf que l'ISS n'y arrivera pas, ou pas tout à fait en tout cas, disons qu'elle s'éteindra complètement, elle semblera s'éteindre complètement, puisqu'elle passera à un moment donné dans l'ombre de la Terre. Donc elle est visible avant, très visible, très forte. Et puis à un moment donné, elle passe dans l'ombre et on a l'impression qu'elle s'éteint. Ça, c'est pour la Station Spatiale Internationale, si vous voulez l'observer plus tôt, c'est-à-dire aujourd'hui, premier jour de diffusion de cette émission, le 3 avril, eh bien vous pourrez la voir à 21h42, à l'horizon, en plein nord. Voilà pour les observations de ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller farfouiller dans un logiciel qui s'appelle Stellarium, que je conseille à tout un chacun, c'est un logiciel qui peut s'installer sur n'importe quel ordinateur et même une application mobile pour pouvoir voir le ciel à n'importe quel moment, tous les événements astronomiques y sont. Et ça permet de préparer sa nuit d'observation, ça ne la remplace pas bien sûr, mais en tout cas on peut savoir à quoi s'attendre dans la nuit qui vient en regardant le logiciel Stellarium auparavant. Je vous invite à vraiment l'installer. Thank you. On arrive à la fin de cette émission. Pour avoir un peu plus d'infos sur toutes les choses dont j'ai parlé, je vous invite à aller sur internet principalement, notamment le site de la NASA où vous pouvez observer des centaines de milliers de photos prises par la sonde Cassini aux alentours de Saturne. Vous pourrez voir les geysers d'Encelade, les anneaux de Saturne comme jamais ils n'avaient été photographiés auparavant et plein d'autres choses encore. Je vous invite aussi à être un petit peu curieux de manière distrayante en suivant les chaînes YouTube de Lanterne Cosmique que j'aime beaucoup ou d'AstronoGeek que j'aime aussi. Ça, c'est des chaînes dédiées à l'astronomie, mais pas que. Et puis, un site que j'aime bien aussi, sur lequel je pioche pas mal d'informations, dont certaines dont je vous ai parlé à l'instant, qui s'appelle le Cosmographe. Voilà pour cette première de Les Oreilles au Ciel. On se retrouve en tout début de mois prochain. Vous pourrez aussi réécouter cette émission en podcast sur le site radiosaintafrique.com. En attendant, levez les yeux au ciel et restez curieux.